Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. L'opposant russe Alexeï Navalny a été arrêté dès son retour en Russie hier soir, 5 mois après un empoisonnement présumé. Les autorités russes avaient prévenu et prévu son interpellation. Notre correspondant nous racontera la soirée à Moscou. Place aux seniors en France. Les plus de 75 ans sont invités à se faire vacciner à partir d'aujourd'hui. Des centres sont mis en place, mais leur proximité avec le domicile des personnes concernées n'est pas toujours respectée. Parole donnée à un médecin généraliste dans ce journal. Et puis nous reviendrons sur l'annonce du Conseil français du culte musulman hier. Il se dote d'une charte et d'un conseil des imams. Peut-être un écran de fumée. Nous poserons la question. Avion dérouté, sympathisant neutralisé, collaborateur arrêté. Les autorités russes n'ont pas lésiné sur les moyens pour éviter qu'Alexeï Navalny ne rentre en contact avec ses soutiens à son retour en Russie hier soir. Après quasiment 5 mois de convalescence en Allemagne et après un empoisonnement présumé, l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine a été arrêté dès son arrivée sur le sol russe. Une arrivée mouvementée, détournée vers un autre aéroport. Notre correspondant Claude Bruyot nous raconte.
Les aboiements des chiens policiers, les avertissements dans les haut-parleurs des aumônes, les unités anti-émeutes n'étaient que des leurres, destinés à laisser croire aux quelques centaines de sympathisants d'Alexeï Navalny qu'il leur serait difficile d'apercevoir leur leader. Et pour cause, dès le départ, il était prévu que son avion serait dérouté vers un autre aéroport moscovite et que l'intéressé serait arrêté à l'écart de ses soutiens. Faut-il que Vladimir Poutine ait peur à ce point de son principal opposant, s'interroge Sergueï Boïko, venu spécialement de Novosibirsk en Sibérie, où il dirige le collectif Navalny.
Nous comprenons que le système politique russe actuel fonctionne de telle façon qu'il ne respecte pas les gens. Le pouvoir peut faire ce qu'il veut. Ils peuvent par exemple lui présenter une convocation pour comparaître devant un tribunal fin janvier. C'est vraiment difficile de prédire maintenant quoi que ce soit. Le Kremlin est devenu hystérique.
S'il s'appuie sur l'interdiction de tout rassemblement pour gérer la pression intérieure qui va faire suite à l'arrestation d'Alexeï Navalny, le Kremlin, en revanche, passé sa rudesse habituelle, aura des difficultés à ignorer très longtemps les injonctions occidentales qui demandent sa libération.
Effectivement, Paris a déjà exigé hier soir la libération immédiate d'Alexeï Navalny. Les États-Unis condamnaient cette nuit fermement cette arrestation. Partout dans le monde, la troisième vague de Covid-19 devient plus pressante et les mesures sanitaires plus restrictives. Nouvelle mesure qui voit le jour en Europe sur la question des masques. Les masques FFP2 et exclusivement seront bientôt obligatoires en Autriche dans tous les magasins et les transports. C'est le cas aussi à partir d'aujourd'hui dans une région en Allemagne, en Bavière, ce qui augure peut-être d'une décision qui pourrait s'étendre à tout le pays dans les prochains jours. Explication ce matin de Ludovic Piétenu.
C'est un masque de meilleure qualité que le masque chirurgical classique. Il offre une meilleure protection, en théorie, seulement s'il est porté correctement et manipulé avec soin. Mais cette nouvelle mesure aura-t-elle vraiment un impact sur le cours de l'épidémie, particulièrement dans cette région du sud du pays où les premiers cas allemands ont été recensés il y a bientôt un an? La Bavière est la deuxième région où l'on dénombre le plus de cas positifs ces 7 derniers jours, mais seulement, juste derrière Berlin, le 6e sur 16 Länder rapporté au nombre d'habitants. Mais cette région a souvent pris des mesures plus avant le reste du pays. On le vérifiera demain après une nouvelle réunion convoquée par Angela Merkel une semaine plus tôt que prévu. Mais beaucoup de voix appellent d'abord à faire appliquer les mesures existantes. Toutes les données confirment que les Allemands ne réduisent pas suffisamment leurs contacts. Ils ne sont aussi que 13% à pratiquer le télétravail quand ils étaient un tiers à le faire au printemps. Le rendre obligatoire est une solution qui pourrait être prise demain, tout comme réduire l'offre de transport en commun.
Voilà pour l'actualité outre-Rhin où l'on vaccine déjà massivement depuis plusieurs semaines contre le Covid-19. En France, c'est aujourd'hui que les plus de 75 ans peuvent se faire vacciner dans des centaines de centres installés dans tout le pays. Les médecins généralistes plaident toutefois pour que ces personnes puissent se faire vacciner chez les médecins, dans les cabinets médicaux, et ce même si le vaccin multidose de Pfizer complique la situation. Écoutons à ce propos Jacques Bettistoni, président du syndicat de généralistes MG France.
La plupart des médecins savent bien que c'est un petit peu difficile encore de proposer une vaccination au cabinet avec des vaccins multidoses, qu'ils attendent pour cela les vaccins monodoses. Beaucoup de médecins dans toute la France s'organisent pour participer ou créer des centres de vaccination dans lesquels ils vont vacciner leurs patients. Et donc l'offre de vaccination se met en place. C'est difficile de faire coïncider la demande vaccinale avec l'offre. Certains médecins disent qu'eux, ils pourraient s'organiser pour voir 5, 10, 15 patients dans la semaine, mais c'est probablement pas le cas de tout le monde. Donc, il faut que les choses soient stabilisées. Il faut pouvoir dire aux gens, vous allez vous faire vacciner à partir de telle date. La pire des choses, ça serait de dire aux gens, venez, venez, et d'avoir que des vaccins pour la moitié des personnes possibles. La priorité, c'est de créer partout des centres de vaccination de proximité à l'initiative des professionnels de santé de ville et professionnels de santé libéraux, de façon à pouvoir apporter le vaccin auprès des patients et non obliger les patients à faire des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir se faire vacciner. Quand je parle avec mes patients, je vois bien que le fait que ça soit proche de chez eux, avec des professionnels qu'ils connaissent, c'est extrêmement important pour eux et très rassurant. Et certains me disent, moi, j'irai pas faire la queue au CHU et attendre et pas savoir si on va me prendre.
Des propos recueillis par Laura Dulieu. Les principaux dirigeants du Conseil français du culte musulman se sont accordés hier soir sur une charte des principes de l'islam de France, comme le leur avait demandé Emmanuel Macron il y a quelques mois. Une charte donc, mais non sans mal. Elle réaffirme le principe de l'égalité homme-femme, elle rejette le mariage forcé et surtout l'instrumentalisation de l'islam politique. Mais ce texte réveille aussi des dissensions qui existent depuis de longues années au sein du CFCM. À ce propos, Sarah Der s'ajoint Dora Mameri Chambi, docteur en histoire et sciences politiques. C'est une trêve de courte durée, dit-elle.
Il va y avoir une entente sur le principe, bien que la mosquée de Paris se soit un peu éloignée de ce process en raison de la présence d'islamistes ou de personnes réputées proches des mouvements islamistes au sein du CFCM. Donc je dirais qu'il va y avoir un accord sur le principe et que par la suite, alors si on fonctionne avec les mêmes modalités, en tout cas que par le passé, il y aura obligatoirement des dissensions parce que la question majeure semble être celle du leadership dans la construction de l'islam de France et de l'entente sur la légitimité de tout à chacun. Là, la question, on oscille entre deux mouvements, cette volonté de vouloir structurer l'islam par le haut sur le modèle des anciens cultes hein, reconnus par le Concordat et puis cette dimension sociologique qui veut que il y a aussi une forme d'individualisation des croyances qui n'est pas assez prise en compte à l'égard de l'islam, à mon avis.
Et quoi qu'il en soit, cette charte sera présentée ce midi à l'Élysée à Emmanuel Macron. À l'Assemblée nationale, ce lundi, les députés vont examiner le projet de loi qui conforte les principes républicains, anciennement projet de loi sur les séparatismes. Le débat dans l'hémicycle devrait se cristalliser sur quelques dispositions polémiques, notamment la question du voile ou l'enseignement à domicile. Il y a précisément 20 ans, le 18 janvier 2001, le Parlement français reconnaissait publiquement au nom de la France le génocide arménien de 1915. Les députés français se gardaient bien alors de désigner un coupable, sans doute pour ne pas prendre de front la Turquie, héritière de l'Empire ottoman aujourd'hui disparu. Le gouvernement turc de l'époque avait condamné fermement ce vote français, l'accusant de nier les réalités historiques. 20 ans plus tard, la position officielle n'a pas beaucoup évolué à Nandlauer.
La Turquie, dirigée depuis 2002 par Recep Tayyip Erdogan et son parti, nie toujours fermement que l'Empire ottoman ait souhaité, planifié et entrepris l'extermination des Arméniens d'Anatolie au début du XXe siècle. Sur la forme, le discours d'Ankara a connu une timide évolution au début des années 2010. En 2014, Recep Tayyip Erdogan, alors Premier ministre, a exprimé des condoléances, je le cite, aux petits-enfants des Arméniens qui ont perdu la vie au début du XXe siècle. Depuis, il a renouvelé chaque année ce message de condoléances, tout en continuant de juger sans fondement le terme de génocide et d'y voir une campagne de dénigrement de la Turquie. La société civile turque, à l'inverse, a beaucoup évolué ces 20 dernières années. Il existe depuis les années 2000 des associations, des plateformes, des intellectuels, des historiens, des journalistes turcs qui militent en Turquie même pour que l'État reconnaisse le génocide. Ce mot n'est donc plus imprononçable dans l'espace public, dans les livres, les conférences, les recherches, ce qui signifie donc que les autorités font preuve relativement d'une plus grande ouverture qu'autrefois. Avec un gros bémol toutefois, comme la société civile dans son ensemble, les ONG qui réclament la reconnaissance subissent la répression des voix dissidentes et des médias à l'œuvre depuis le coup d'État manqué de l'été 2016. Il leur est donc beaucoup plus difficile qu'il y a 5 ans de s'exprimer dans l'espace public, donc de se faire entendre.
C'était Anne Andlauer. Le temps devrait s'améliorer sur le sud et sur l'est de la France ce lundi en attendant l'arrivée de nouvelles pluies par les côtes de la Manche. Comptez entre 1 et 8 degrés ce matin du nord au sud.